Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour à tous et bienvenue aux attachés de presse. Nous sommes aujourd'hui le 6 novembre et c'est une belle journée. C'est une belle journée de soleil en ce mois de novembre qui en manque cruellement parfois de soleil. Et je suis aujourd'hui accompagné de Julien et de Léonie. Donc, de quoi vous nous jasez aujourd'hui, Julien et Léonie?
Moi, aujourd'hui, je vais vous parler des 547 mises à pied qu'il y a eu dans le groupe TVA. Parce que, ben c'est préoccupant, tout ça. Puis, je pense qu'on l'a tous déterminé, là, ce qui entrait aux médias, ça m'intéresse. Puis, ben je suis toujours là pour vous en parler un petit peu. Question de vous garder au juice, comme on dit.
Et toi, Julien?
Moi, je vais faire un topo sur les élections en Argentine. Parce que là, on est entre les deux tours pour les élections. Donc,
c'est très... Écoute, c'est une situation qui est à suivre parce que là, le premier tour est fini. Il y a deux candidats qui sont restés, puis on va voir qu'est-ce que la suite nous apporte.
Mais pourquoi est-ce que l'Argentine, on devrait se soucier de ce pays-là? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les candidatures actuelles?
Bien, premièrement, l'Argentine vit une crise économique incroyable en ce moment. Là, on parle d'un taux d'inflation qui devrait avoisiner les 210% d'ici la fin 2023. Là, fait que... C'est une situation vraiment préoccupante. Puis parmi les candidats, ben en ce moment, il y a c'est Sergio Massa, que lui, c'est le ministre de l'économie en ce moment, qui se présente. Puis là, il y a comme une coalition, en fait, qui est sortie avec le candidat d'extrême droite, puis une autre candidate qui a été éliminée au sein du premier tour. Donc là, en fait, la coalition va probablement permettre aux candidats d'extrême droite de remporter les élections, en fait, le deuxième tour des élections qui va avoir lieu mi-novembre à peu près.
OK, parfait. Eh bien, pour ma part, moi, je vais vous parler, en fait, d'un congrès qui s'appelait le Forum Foi et Espace Public, organisé par la Table interreligieuse de concertation du Québec. Et là, ça sonne probablement aucune cloche à personne. Et c'est normal, parce que la question religieuse au Québec, en fait, la question des groupes d'intérêt religieux et de leur organisation pour faire valoir leur point de vue sur la place publique et dans les médias est généralement assez faible. C'est pas un mouvement qui parle très fort. Parfois, qui peut parler fort pour s'opposer, par exemple, au projet de loi 21 qu'il y a eu il y a tout ça 3-4 ans, mais qui quand même reste plutôt dans l'ombre, alors que en fait, ils ont beaucoup de choses à dire, puis on va en discuter tantôt. Donc, sinon, il y a plusieurs choses dans l'actualité qui ont eu lieu récemment. Le conflit israélo-palestinien est encore très actif malgré tout. Ça fait 100 ans que ça dure, ce maudit conflit-là, puis on semble jamais en voir le bout, même qu'on est en train d'en voir une des pires phases, sinon la pire phase, avec en ce moment l'armée israélienne qui est en train de bombarder de façon extrêmement massive la bande de Gaza, qui a même fait une incursion militaire armée et qui, tout juste, je voyais ça hier, ils ont atteint désormais le rivage de la mer Méditerranée, donc ils ont vraiment réussi à couper en deux la bande de Gaza. On va voir où ça va aller avec la suite, mais c'est sûr qu'avoir les discours extrêmement envenimés des deux côtés, il y a eu une intervention notamment du chef du Hezbollah, pour parler que son groupement, pour ceux qui ne savent pas, le Hezbollah, c'est un groupe armé au Liban, chiite, très proche de l'Iran, très hostile à Israël, connu pour et qualifié par plusieurs d'un groupe terroriste, qui a annoncé qu'il allait prendre une part active dans le conflit. Donc, on sent un risque d'escalation régionale. Il y a des morts dans le sud du Liban également. Donc, c'est à voir jusqu'où ça va s'étendre, jusqu'où ça va aller. Quelle est la voie de sortie? Est-ce qu'il y a une voie de sortie ou est-ce que c'est juste on s'enlise encore là-dedans?
Mm-hmm.
La question sur la table, je ne sais pas si vous avez des commentaires par rapport à ça.
Ben, je ne suis pas la personne la plus informée. On dirait que j'ai éprouvé un peu d'angoisse en m'informant par rapport au conflit. Moi, c'est l'enjeu de la polarisation. On dirait qu'il faut qu'on se positionne dans ce conflit-là. Puis moi, c'est ça qui m'inquiète. Puis ben, effectivement, je me demande vraiment ce qui va advenir des autres parties, outre la Palestine et Israël, là, qui va s'impliquer dans ce conflit-là, puis de quelle forme ça va prendre. Puis à savoir aussi, ben c'est ça, comment Israël va réagir si, admettons, l'Hezbollah finit par agir directement dans le conflit.
Mm-hmm.
Ouais.
Ouais. Puis ça s'invite effectivement partout, cette polarisation-là. On la voit sur les réseaux sociaux. Je suis sûr que tout le monde a vu des publications pro-Palestine ou parfois plus rarement pro-Israël, avec souvent un ton très agressif, qui manque de nuances, qui évite des détails importants, puis mm-hmm. ce qui fait qu'on n'est pas capable d'avoir un portrait juste de c'est quoi qui se passe exactement. Parfois en anglais aussi, tu sais, je veux dire, on va en parler tantôt du rôle des médias, comment c'est important d'avoir des informations qui sont capables d'être à la même longueur d'onde que nous, puis liées à notre réalité.
Ouais.
Eh bien, on va pouvoir en reparler. Sinon, en fait, ici même, sur le campus à Sherbrooke, pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes ici, si vous marchez aujourd'hui, vous allez pouvoir voir, il y a un étudiant de la Riposte socialiste, en fait, qui est un groupe communiste plutôt actif à Sherbrooke, qui s'est placé devant notre bâtisse, là, le E1, si on veut,
Pavillon de la vie étudiante.
Ouais, le pavillon de la vie étudiante, c'est ça, merci. Et qui n'est pas là non plus du pavillon principal. Et il est là avec une table et c'est écrit « Vive la Palestine libre, abat l'oppression ». J'ai posé quelques questions, puis il m'a dit en fait que ce mercredi midi, en fait, il allait avoir un micro ouvert qui allait avoir lieu un petit rassemblement en solidarité à la Palestine. Puis il m'a dit que c'est ouvert à tout le monde de se pointer puis de parler, que ce ne serait pas monopolisé par les communistes.
OK.
Ouais, c'est quand même une bonne affaire.
Surtout... Donc, c'est une belle initiative.
Je l'espère. C'est une belle initiative. Est-ce que ça va être... Parce qu'on a vu beaucoup de manifestations de solidarité à la Palestine dans le mm-hmm. monde, puis on en a vu qui ont vraiment dégénéré. Il y en a,
ouais.
La plupart ont bien été, là.
Oui, même à Montréal, là, il y a un leader qui a pris la parole. Les gens se demandent quel est l'apport de la police dans ça, parce que ça s'est transformé en discours haineux, puis... Mm-hmm. Comment est-ce qu'on peut intervenir quand c'est des manifestations de millions de personnes, mais qu'il y a des choses qui sont scandées par quelqu'un avec un micro qui encourage la haine? Là, excusez,
ouais. Non.
Je m'en vais ailleurs avec ça, là, mais ouais, effectivement, s'il y a un micro ouvert sur le campus, espérons que ce soit une initiative qui va prendre quelque chose, une ouais. forme pacifiste. Là,
absolument.
Pacifique. Ouais.
J'ai l'impression que Sherbrooke est un milieu plutôt apaisé en général.
Effectivement, ouais.
Donc, ça devrait bien aller, on l'espère. Sinon, ben, c'est ça, au Québec, ça brasse beaucoup. Hein? Qu'est-ce qu'on a drette aujourd'hui? Ben, on a le début de la grève du Front commun intersyndical dont on discutait la semaine dernière. Donc, c'est des centaines de milliers de travailleurs qui amorcent la grève. Je sais pas s'il y avait des choses à ajouter à ce niveau-là.
Oui, ben, ça a été annoncé ce matin aussi que si, en fait, s'il n'y a pas d'entente là, qui survient avec le Front commun intersyndical, ben les 420 000 membres du Front commun vont retomber en grève le 21, 22 et 23 novembre. Puis là, s'il n'y a toujours pas d'entente après ça, ben on pourrait s'imaginer une grève illimitée.
Mm-hmm. Ah oui, c'est ça, ça brasse beaucoup. Autre affaire qui a fait jaser, ben, d'abord, il y a Hydro-Québec qui a annoncé qu'il allait faire un grand plan d'investissement massif pour bâtir de nouvelles centrales hydroélectriques. Et autre chose aussi, le gouvernement a aussi annoncé une hausse des seuils d'immigration au niveau du Québec. On allait avoir 56 500 immigrants économiques à compter de la prochaine année. Et ça fait jaser, ça crée beaucoup d'inquiétudes et de mécontentements. Non pas parce qu'on n'aime pas les immigrants en soi en tant qu'être humain, mais parce que crime, où c'est qu'on va les loger, comment est-ce qu'on les accueille? Notamment, il y a eu une intervention de la Banque du Canada, c'est ça?
Oui, ben on en discutait l'autre fois, Renaud. Je pense que c'est quoi que tu... on discutait du fait qu'on n'était pas capable d'accueillir.
Mm-hmm. C'est ça, on n'a pas la capacité d'accueillir.
Selon la Banque du Canada, c'est pas l'éditorial ici.
Non, mais il n'y a pas juste la Banque du Canada non plus. Il y a eu plusieurs banques privées qui ont fait des études ou qui ont démontré, en fait, parce qu'il y a aussi la question canadienne, fédérale, mm-hmm. de l'immigration, où il y a une grosse controverse au fait qu'ils veulent monter les seuils d'immigration jusqu'à 500 000. Ils disent qu'ils vont les plafonner là à partir de 2025, 2026. Mais je veux dire, pareil, là, 500 000 immigrants, il n'y a pas ça nulle part ailleurs dans le monde. Mm-hmm. Au niveau immigrants réguliers, économiques.
Oui. Puis là, ce serait le fun aussi que nos dirigeants ils s'entendent sur ce qu'ils disent. Parce que là, c'est un peu dans la contradiction qu'est François Legault d'élever son seuil d'immigration. Tandis que récemment, il affirmait en campagne qu'il y avait une louisianisation qui guettait le Québec. Au-delà d'un seuil de 50 000 immigrants permanents.
Mm-hmm.
Puis là, il vient d'augmenter à 64 600.
Mm-hmm. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut compter, effectivement, qu'au-delà des simples immigrants économiques, il s'ajoute à ça les réfugiés puis les immigrants temporaires, notamment. Puis ça, c'est un nombre qui est souvent masqué, qui est une immigration invisible, si on veut, dans les chiffres, parce qu'on dit « Ah, ils sont temporaires », mais au final, parfois... Quand le contrat vient à échéance, parfois il reste, puis là on les perd,
mm-hmm.
puis on se retrouve avec des situations de sans-papiers, puis là dans ce temps-là, ben, c'est vraiment le bordel.
Oui, puis c'est beaucoup de personnes, là, parce que les immigrants temporaires présentement au Québec, ils seraient 466 000.
Mm.
C'est vraiment beaucoup de personnes, puis là si on a une mauvaise gestion du suivi de ces personnes-là, c'est ça, de se demander qu'est-ce qu'on va faire, puis. OK, on élève des seuils, on nomme des nouveaux nombres d'immigrants qu'on est prêt à accueillir, mais c'est de s'entendre sur, d'accord, parfait, quelles sont nos capacités d'accueil maintenant, mm-hmm. concrètement?
Oui, c'est ça, exact. Puis c'est quoi les motivations aussi à accueillir autant de gens? On a droit de parler de pénurie de main-d'œuvre, mais quand on regarde en soi, il n'y a aucune étude qui prouve tangiblement que l'immigration vient régler la pénurie de main-d'œuvre. Non seulement ça, mais il y a des études qui ont été faites par le HEC qui ont démontré que ça risquait parfois de créer plus de demandes pour certains métiers, notamment dans les services, parce qu'un immigrant qui arrive créerait environ 0,9 jobs par immigrant.
Mm-hmm.
Par tous les services dont il a besoin, que ce soit garderie, service de santé, service d'éducation, tout ce qu'il a besoin d'aller acheter. Donc, on peut vraiment se poser des questions si c'est pas... Le Parti québécois a dit que c'était, selon eux, c'est une commande du patronat. Puisque qui est le groupe qui publiquement pousse le plus sur une hausse des seuils d'immigration, c'est le Conseil du patronat.
Okay.
Donc, vraiment, puis on sait que la CAQ veut être proche de ces milieux-là.
Mm-hmm.
C'est un parti plutôt économique et affairiste. Donc, la question est posée, puis c'est clair que ça va continuer d'être débattu dans les prochaines semaines. On aura l'occasion d'y revenir plus en détail. Maintenant, on doit aller à la pause et on vous revient juste après. Salut. Donc, de retour en onde. Et je m'excuse pour la petite confusion. En fait, je suis encore un débutant à la console. On va s'en sortir. Oui, c'est ça. Donc maintenant, Léonie, on passerait à ta chronique sur TVA. Je te laisse la balle au bon.
Parfait. Alors, surprise, surprise, je parle encore d'enjeux en lien avec l'accès à l'information. La crise des médias, cette bonne vieille crise qui nous rappelle toujours un petit peu que la santé démocratique au Québec n'est pas garantie, loin de là. Il y a des chiffres qui sont plus saisissants que d'autres et des fois, je trouve ça difficile d'imaginer l'ampleur de certains événements selon des données chiffrées. Quand 547 employés se font mettre à pied la même journée, je trouve ça gros. Je trouve ça encore plus gros quand ce sont 547 employés du groupe TVA. C'est 547 employés du groupe médiatique le plus important dans l'écosystème québécois. Puis pour ceux et celles qui, comme moi, ne comprennent pas les chiffres, c'est le tiers des employés de TVA qui ont perdu leur emploi jeudi passé. Juste à Sherbrooke, c'est une cinquantaine de personnes. Et aujourd'hui, il est pertinent de discuter de l'avenir des nouvelles régionales, des nouvelles des villes qui ne sont pas Montréal ou Québec. Parce que ce sont les régions qui écopent le plus dans cette mise à pied. Et c'est pas vrai que les équipes de TVA Québec, qui ont été désignées pour faire l'enregistrement des bulletins de nouvelles de l'ensemble des autres antennes régionales, vont se déplacer pour couvrir les enjeux des petites municipalités. Petite dose de cynisme ici, pardonnez-moi. Colette Brin, la directrice du Centre d'études sur les médias de l'Université Laval, a qualifié l'abolition des postes à TVA d'électrochoc. Avez-vous déjà subi ça, un électrochoc, vous, les gars? Non? Ben, moi non plus, mais ça m'inspire vraiment pas confiance. C'est pas un mot qui sonne bien à mes oreilles. Donc, c'est non seulement un coup dur pour l'entreprise, mais c'est une claque d'en face pour le journalisme et la population. Parce que les journalistes à Québec qui se sont fait assigner les bulletins de nouvelles régionaux ne seront probablement pas offrir une couverture digne de ce que voudrait notre conception d'un bulletin d'information de qualité découlant d'une ample couverture de l'actualité. Et c'est pas de leur faute, les journalistes à Québec. C'est littéralement, ça découle d'un manque de ressources, de temps et financières. Donc, il y a une professeure en communication à l'Université de Sherbrooke qui s'appelle Caroline Rouillard, qui abordait justement l'inquiétude qui m'habite au téléjournal de Radio-Canada la semaine passée concernant l'impact démocratique de ces coupures-là. C'est-à-dire que les médias jouent un rôle très important dans nos sociétés démocratiques. C'est pas la première fois que j'en parle. Par la surveillance, le contrôle et la voix qu'ils offrent aux gens qui ne sont pas en position de pouvoir. Dans le sens où les voix des régions sont importantes et il faut les entendre. C'est important ce qui se passe en région dans nos communautés. On ne peut pas décentraliser l'information parce que l'apport aux enjeux régionaux ne sera jamais le même que celui des enjeux des grandes villes. Les gens des petites villes n'ont pas la même manière de voir les choses que les gens de Montréal. On le sait. Puis vous deux autour de la table avec moi, on est au courant, là.
100%.
Donc, l'idée que ces mêmes personnes reçoivent la même information relève un peu du ridicule, en mon sens, dans le sens où allez pas parler du troisième lien de la ville de Québec à un Sherbrookois parce qu'il y a des grandes chances qu'il n'en ait rien à cirer s'il ne va jamais à Québec. Mais allez surtout pas parler du troisième lien à un Sherbrookois, tandis qu'il sera même plus mis au courant des propres enjeux de déplacement de sa propre ville parce que le plus grand empire médiatique au Québec ne couvre plus l'actualité de sa propre ville. Tu sais, à un moment donné... Puis, ce que je trouve le plus inquiétant, c'est qu'un modèle qu'on croyait invincible vienne à bout de lui-même. Puis, je parle ici du modèle d'affaires basé sur les revenus publicitaires qui était méga rentable et qui, bam, en est à son point de rupture. Modèle d'affaires qui se voit même abandonné par les investisseurs privés parce que c'est plus rentable, les médias d'information. La présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture, Annick Charrette, a dit que l'information est nécessaire au maintien d'une population impliquée dans sa vie citoyenne, une population consciente, participative et instruite des enjeux qui a la possibilité de faire des choix éclairés. L'information est un bien commun dont on ne peut priver la société et ce bien commun est en péril. Puis là, j'ai tenté d'écrire à ce sujet en ne me laissant pas emporter, mais je trouve ça vraiment difficile parce que l'impuissance, c'est probablement un des sentiments les plus handicapants selon moi. Sauf qu'heureusement, là, c'est peut-être le rayon de soleil dans nos journées aujourd'hui, du moins de ma chronique. Il y a des gens dont la vocation, c'est de ne pas laisser mourir nos démocraties, qui réfléchissent, qui sont capables d'offrir des pistes de réflexion. Puis c'est le cas d'Annick Charrette qui a conclu son article d'opinion dans la presse de la manière suivante. Alors, je vous cite ce qu'elle a dit dans son article. « Les acteurs de la société civile et des médias doivent réfléchir de concert à des solutions structurantes et pérennes, car manifestement, les conditions actuelles ne suffisent plus à la tâche. » Nous demandons au gouvernement d'agir avec diligence et de préserver notre écosystème médiatique. C'est essentiel pour tous, mais plus encore pour la vitalité des régions, qui sera en grand danger si les moyens de communication ne se déploient plus dans les communautés. Chaque dollar investi dans les journaux, radios et télévisions locaux participe à l'économie circulaire et régionale. Cela crée des emplois, promeut les activités culturelles et communautaires qui soutiennent les salles de spectacle, les restaurants, les rencontres sportives, les initiatives de développement régional, les entreprises, les actions de leurs municipalités et de leurs élus, ainsi que les mobilisations et revendications syndicales de la région. C'est un lien social, parce qu'ils ont l'information locale pour les éclairer sur les enjeux qui les concernent. Les citoyens peuvent entendre leur voix et leur choix sur les enjeux qui secouent leur communauté. En région et localement, l'information est un bien commun, mais aussi un service essentiel.
Oui.
Puis honnêtement, je n'aurais su mieux dire. J'ai lu ça, puis j'étais comme, c'est ça, c'est exactement ça. Mm-hmm. Les médias locaux et régionaux, c'est le miroir des enjeux qui les concernent. Ça fait partie de l'ADN des communautés qui sont en santé. C'est littéralement, c'est l'agora de l'information où il y a des débats publics, où on va savoir ce qui se passe réellement autour de nous. Donc, mm-hmm. comme, comme mentionné, l'information, c'est un bien public, puis c'est pourquoi autant François Legault que Pascal Saint-Onge, qui est la ministre du patrimoine canadien au fédéral, doivent concrétiser des solutions. Puis c'est de faire de cadeau à personne que de ne pas investir dans une information factuelle, professionnelle et rigoureuse. Et là, heureusement, plusieurs figures de proue des régions se mobilisent et ont partagé leur mécontentement et leur inquiétude. Je pense ici à Sylvain Gaudreau, ex-député péquiste, qui est maintenant directeur général du cégep de Jonquière, qui a d'ailleurs un programme qui concerne les médias, qui est très important au Québec. Mais lui, il s'est prononcé sur les enjeux découlant de cette mise à pied. Puis il y a quelque chose qui est relevé que je trouvais vraiment intéressant, qui est le fait que c'est initialement par l'information régionale qu'on vient à développer un intérêt pour l'information nationale et ensuite pour l'information internationale. Donc, c'est extrêmement préoccupant pour les futures générations si on considère ce que M. Gaudreau a dit. Puis là, je pense que je conclue en proposant un petit peu d'utopie à la Léonie, comme d'habitude. Je pense que je conclue en proposant qu'on en crée un nous-mêmes, un média. Puis là, c'est une idée au Québec qui est de plus en plus popularisée, mais je suis « let's go, la gang ». On y va. On crée un média qui n'est pas soumis aux règles des GAFAM, qui va être indépendant des investisseurs privés, puis qui est structuré selon des règles journalistiques dignes de ce que la démocratie attend du quatrième pouvoir. Là, je sais que le PQ en a parlé. Ça va sûrement arriver dans les autres plateformes électorales aussi, puis c'est tant mieux. Puis, indépendamment d'un parti électoral, je pense qu'on devrait juste commencer à réfléchir à une solution de la sorte parce qu'on ne s'en sortira pas autrement. Là. Si TVA en vient à mettre à pied le tiers de ses employés, là, j'ai même pas parlé de l'apport de PKP là-dedans, là, qui a un peu mis ça dans le camp des jeunes qui écoutent plus la télé puis qui écoutent plus la radio. Mais hey, c'est pas ça le problème. C'est vraiment pas ça. Fait que moi, je pense que la création d'un média voué à l'information du peuple québécois, ce serait vraiment incroyable.
Oui, parce que c'est vraiment vrai ce que tu as dit puis ce que Sylvain Gaudreau a dit, que c'est il y a le facteur de proximité est extrêmement important dans notre capacité à être engagé vis-à-vis des nouvelles, de la politique, puis tout ça. Tu peux pas juste commencer à t'intéresser à la politique à travers la guerre en Ukraine ou le conflit israélo-palestinien,
Ou un enjeu à Montréal. Moi, c'est surtout ça, là. C'est de penser à nous en région on va lire les nouvelles, on va ouvrir le téléjournal, puis ça va pas seulement concerner les nouvelles de Montréal, mais ça va être principalement ça qui va être abordé.
C'est déjà ça. Puis c'est aussi, il y a un côté culturel, puis dans le discours qu'il y a en ce moment, je veux dire, tu prends les principales industries médiatiques du Québec, puis ce qu'ils produisent, puis moi, en tant que gars de région, de Chicoutimi, souvent, je me reconnais pas dans le genre de je sais pas, de ces valeurs, le genre de... juste le langage aussi qui est utilisé des fois. Tu sais, quelqu'un qui parle ton langage, c'est tellement... plus engageant, puis ça vient justement créer un sentiment mon identité a de la valeur, tu sais.
Ouais.
Donc, puis effectivement, les régions sont déjà, pour plein de raisons, négligées dans le milieu politique, sociologique, culturel. Puis là, on vient d'enlever une manière de juste comprendre c'est quoi le réel commun qu'on vit.
Ouais.
Puis comment est-ce qu'on vit ça ensemble? Qu'est-ce qu'on a à dire par rapport à tout ça? Je veux dire, n'importe qui veut, ça, qui, un étudiant à Sherbrooke, là, qui vient de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui vient d'Abitibi, de n'importe où, comment tu veux qu'il puisse comprendre dans quel genre d'endroit il vit s'il n'y a plus de médias qui sont capables de l'informer sur tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a de beau ici? Je veux dire, on est une belle communauté, la communauté étudiante à Sherbrooke, donc on se parle, on est capable, à travers le bouche-à-oreille, d'entendre des choses. Mais à un moment donné, est-ce que c'est suffisant?
Oui. Puis qu'adviendra-t-il d'une conscience collective si collectivement, on se connaît plus, on ne sait plus ce qui se passe autour de nous? Puis là, c'est un peu plus profond que juste des coupures à TVA, mais moi, c'est l'idée que l'individualisme va sûrement être exacerbé par le fait que si on ouvre nos réseaux sociaux, qu'on n'a non seulement pas accès à de l'information, mais qu'en plus... si on va s'informer, on n'a pas d'informations qui nous rejoignent directement, il va y avoir un repli sur soi-même. Puis c'est sûr qu'après ça, on va finir avec des enjeux d'américanisation.
Exactement,
du Québec. Là.
C'est
sûr que ça va arriver. Là.
C'est ça.
Puis là, tu sais, j'ai même pas parlé avec cette coupe-là de toute la restructuration qui concerne la production culturelle au Québec aussi. Tu sais, TVA, c'est un grand producteur de séries, de plein de choses. Là. Puis ça aussi, c'est extrêmement préoccupant de faire... Je comprends que les jeunes n'écoutent plus la télé, le PKP. Mais moi, je pense que c'est peut-être plus Netflix puis Amazon puis les Crave de ce monde là, qui font mal.
Ben, c'est ça.
Viens pas mettre ça dans notre camp. Nous, on a été élevés là-dedans. On s'est adapté du mieux qu'on peut. Puis après ça, si on n'a pas eu d'éducation culturelle par rapport au fait que le Québec va continuer de vivre à travers la culture, on s'est pas fait apprendre ça, c'est normal qu'on n'ouvre pas la télé puis qu'on paye pas pour le câble.
Nos référents culturels, notre information, on va aller la chercher ailleurs. Puis ça va être exactement comme tu as dit, ça va être d'affaires américaines. Mm-hmm. Je veux dire, pourquoi est-ce que quelqu'un comme Andrew Tate, mettons, c'est supposé être pertinent au Québec avec Jordan Peterson?
Ouais, là, c'est
non, mais je prends un exemple.
Loin, mais je veux dire,
ça pourrait être. Là, je prends le côté à droite, mais ça pourrait être d'autres affaires plus à gauche. Mm-hmm. Mais on en parlait, là. C'est quoi? Le wokisme, d'où ça vient? Ça vient des universités américaines. Puis ça s'est implanté au Québec à travers ça. Puis c'est pour ça qu'on dit. Mais c'est pas québécois, mais de la même manière, l'extrême droite, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas très fort au Québec, mais moi, je sens un risque que ça s'implante à travers l'américanisation.
Absolument, puis ça aussi, ça découle d'un enjeu de... Si on ouvre nos réseaux sociaux, qu'on n'a plus d'informations qui est journalistique, c'est que les gens vont consulter ce qui les intéresse. Puis là, il y a tout l'aspect psychologique de la consommation de l'information dans le fait que... Ce qui va être sensationnel, on le sait, le sensationnalisme, c'est très, très, très attirant, c'est vendeur. Mais justement, on parle des Andrew Tate et des autres influenceurs qui sont problématiques. C'est que c'est intéressant, ça attire l'œil. Leur discours rejoignent beaucoup de personnes parce qu'ils savent comment le faire. Puis, tu sais, il y a des subtilités que peut-être que les jeunes adolescents ne comprennent pas, mais que quand ils vont ouvrir leur téléphone, ils ne vont pas aller rechercher la presse dans leur moteur de recherche ou le devoir. Ce qu'ils vont faire, c'est aller sur TikTok où l'information est condensée, hyper rapide, mais colorée, attirante. Puis c'est ce qui va rester entre leurs deux oreilles, tandis que ce n'est pas ce qui est préférable, justement, démocratiquement parlant.
Puis c'est intéressant que tu parles de ce sensationnalisme, je trouve, parce que c'est quelque chose qu'on reproche beaucoup à TVA puis à Québécois, souvent, d'avoir cette approche-là. Mais on dirait que, personnellement, moi, ça m'a donné un recul sur ce qu'ils font, parce que l'idée qu'on va perdre ça maintenant, ça me fait réaliser que peut-être qu'il y avait... Même si c'est pas la même qualité, si on veut, en termes de niveau de vocabulaire, juste de langage que Le Devoir ou Radio-Canada, reste que c'était capable d'aller rejoindre du monde qui n'ont peut-être pas le niveau de littératie pour être rejoint par Le Devoir ou par Radio-Canada.
Exactement. Puis si je me trompe pas, le Journal de Montréal était le journal le plus lu au Québec par les Québécois. C'est ça. Peut-être que nous, ça nous rejoint moins parce que, il a fallu qu'on s'adapte au... C'est ça. Mais c'est ça aussi qui m'inquiète. C'est comment est-ce que le journal le plus lu au Québec peut être celui qui fait une aussi grosse mise à pied de ses employés? Puis là, c'est ça. On parle de sensationnalisme, mais après, c'est se demander est-ce que c'est l'effet du modèle... économique des médias, de la structure, etc. Il y a plusieurs questions à se poser. Puis c'est ça, c'est extrêmement préoccupant la mise à pied qui vient de se produire. Puis d'ailleurs, j'envoie mes pensées à toutes les personnes que ça touche de loin ou de près. C'est désolant. Puis,
Moi, je vais encourager ces gens-là, s'il y en a qui nous écoutent ou si vous connaissez des gens qui sont dans ce milieu-là, à ne pas lâcher. Pas lâcher le monde des médias puis de la culture. Parce que c'est vraiment un pilier de notre démocratie pour des raisons profondes, pour des raisons sociologiques, qu'on puisse juste être dans un réel qui est authentiquement lié à l'endroit où on vit, puis qui n'est pas des idées extérieures qui vont venir faute de mieux, tu sais, puis faute d'accès à mieux. Fait que, c'est ça, faut réfléchir à différentes solutions qu'il y a, puis je pense qu'il y en a. Faut se donner de la volonté politique, faut se parler. Faut pas avoir peur en se disant mais tu sais, Netflix, ça fait peur, tout ça. J'enverrai un message, moi. OK, bon je me permets de faire ça. Là.
Parfait.
Non, mais je veux dire, Québec solidaire, là, OK, qui se disent proches du peuple, des intérêts, de la démocratie, qui se veulent la conscience morale un peu, parfois, de l'Assemblée nationale, force à eux. Je veux dire, arrêtez de faire de la publicité, de payer des trucs publicitaires à Meta, là. Ça n'a pas d'allure, là.
Ouais.
Ça, c'est rendu là, c'est vraiment hypocrite, là. Sérieusement, faut arrêter ça parce que il y a un ennemi là-dedans à abattre, puis c'est les grandes corporations étrangères que certains qualifient de barbares numériques. Je pense que c'est approprié. Ils jouent pas selon les règles du jeu.
Non, on l'a vu avec le projet de loi C-18. Le blocage est... Non, ça l'a... C'est complètement aberrant. Là. Puis... Mais tu sais, pour faire du pouce sur Québec solidaire qui paie encore des publicités sur Meta, je comprends, mais c'est quoi l'alternative?
Ben c'est de faire des publications directement. Il y en a beaucoup qui le font.
Ouais.
Les autres parties sont encore capables de rejoindre leur monde autant. Là, à un moment donné, je pense que... C'est surtout que... Si, mettons, c'était le Parti libéral qui faisait ça, ça me surprendrait pas. Là. Ou, t'sais, mais c'est que c'est le parti qui se revendique avoir une haute conscience morale et éthique. À un moment donné, il faudrait que les babines suivent les bottines, je pense. C'est ça que je... C'est ça qui vient me chercher, moi. Ouais. Donc, c'est ça. Super belle chronique, sujet pertinent, ma foi. On peut passer directement à la chronique de Julien sur les élections en Argentine. Donc là, on change vraiment, là, on change d'univers. On s'en va en Amérique du Sud.
Oui.
Alors, je te laisse parler, mon cher.
Oui, ben vous allez me revoir encore cette semaine à parler d'inflation. Je pense que vous avez pu deviner que... Je parle beaucoup de ça ces temps-ci parce que c'est quand même un sujet qui touche pas juste le Canada, en fait. Là. On entend souvent parler juste des pays du G7, là, mais en Amérique du Sud, ça va pas super bien non plus.
C'est quoi le taux d'inflation en Argentine en ce moment?
En ce moment, le taux d'inflation en Argentine, là, il est à 138%. Juste pour vous mettre en contexte, là, au Canada, on est à 3,6, si je me trompe pas. Puis le plus haut du G7, là, c'est le Royaume-Uni ou l'Italie qui se situait, je pense, la semaine dernière à 8,6, 8,7. Là. Fait qu'on est très, très, très loin de ce qui se passe en Argentine. Donc, justement, le 22 octobre dernier, il y a eu... il s'est tenu le premier tour de la présidentielle en Argentine. Donc, cette élection-là, elle a pour but d'élire un nouveau président, une présidente, puis même chose pour la vice-présidence aussi, plus les représentants de la Chambre basse, puis des sénateurs. Donc là, l'élection à voix... un sortant de la gauche, là, c'est le président en ce moment, Alberto Fernandez. Il ne s'est pas représenté, puis il a avoué aussi aux médias qu'il était vraiment pas... Il n'avait pas le sentiment du devoir accompli de son mandat. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il ne se représentait pas. La crise économique aussi, bien sûr. Il ne faut pas l'oublier. Donc, à l'aube de cette élection-là, il y a trois candidats qui étaient vus comme des bons remplaçants. Donc, premièrement, on a Javier Milei. C'est le leader de l'extrême droite qu'on compare souvent à Donald Trump aux États-Unis et Jair Bolsonaro au Brésil. Parce qu'il met de l'avant des idées... anarcho-capitalistes. Pardonnez-moi la prononciation.
Donc, c'est ça, lui, il veut abolir toutes sortes d'institutions étatiques.
Oui, exactement. Donc, c'est ça, l'anarcho-capitaliste, c'est un courant d'idées qui combine la pensée capitaliste puis la pensée anarchiste. Puis ses résolutions économiques prévoient d'abandonner la Banque centrale puis de changer le peso argentin pour le dollar américain. Donc, cette décision-là, là, ça vient principalement du fait que le peso argentin chuté incroyablement dans la dernière année. Là, j'étais en train de faire des recherches tout à l'heure, puis en ce moment, le peso, pour 1000 pesos argentins, là, on a 85 $ américains. Si on retourne à pareille date l'an dernier, pour la même somme en pesos argentins, on avait 6,30 $. Donc c'est quand même une baisse de 50% et plus de la valeur du peso argentin. Là. Donc quand je dis que c'est une situation vraiment précaire, ben c'est le cas. Ensuite, on a Patricia Bullrich, qui est une ancienne ministre de la Sécurité en Argentine, qui se présentait sous la bannière de la coalition de la centre-droite Ensemble pour le changement. Malheureusement, elle a été éliminée lors du premier tour.
Elle, dans le fond, c'est le centre-droite, genre, dans le fond.
Oui, exactement. Donc, elle ne se situe pas à gauche, elle n'est pas au centre-centre, et on pourrait le dire qu'elle est entre Javier Milei puis le centre. Donc, elle, comme j'ai mentionné, elle n'a pas été... elle n'a pas atteint le nombre minimal, en fait, d'intention de vote pour continuer au deuxième tour. Puis, ensuite, on a Sergio Massa, qui, lui, c'est l'actuel ministre de l'économie. Puis, il est situé vraiment au centre. Donc, il y a plusieurs gauchistes, puis la droite, en fait, qui critiquent, justement, son manque de position... Parce qu'il coupe dans les services sociaux, puis de l'autre côté, il n'en fait pas assez pour sortir le pays de la crise économique. Puis, comme son adversaire, Javier Milei, lui aussi, il a passé au deuxième tour là, avec 36% pour 30% de Javier Milei. Fait que, on s'entend, ils sont quand même assez proches. Sauf qu'il faut prendre en compte aussi la marge d'erreur qu'il y a dans les sondages, mais pour l'instant, c'était ça. Donc là, les principaux enjeux de la campagne présidentielle, bien évidemment, là, il y a la situation économique de l'Argentine. Parce que comme j'ai mentionné, l'inflation a atteint des chiffres désastreux. Puis en date du mois de septembre, le taux d'inflation était situé à 138%. En plus, l'Argentine a une dette énorme au FMI de 44 milliards de dollars qui sont vraiment, pardonnez-moi, qui sont vraiment à peu près de...
Ça découle de quoi cette dette-là?
Des prêts, en fait, que le FMI a octroyés à l'Argentine.
44 milliards,
là. Ouais, c'est une somme énorme.
Pour un pays qui n'a pas une économie qui est très en forme.
En effet.
C'est, tu sais quoi, l'économie argentine, c'est quoi les forces, s'il y en a, de cette économie-là? Je veux dire, c'est pas...
Les forces, est-ce que tu veux dire, est basée sur quoi?
Ouais, c'est
ouais,
ça.
Bon, OK. Justement, j'allais le mentionner un peu plus tard, là, mais l'Argentine, c'est le plus gros exportateur de soya puis de maïs au monde. Sauf que dans la dernière année, l'Argentine a connu une de ses plus grandes sécheresses qu'on a vues depuis le début du 20e siècle. Puis, juste pour cette année-là, les agriculteurs s'attendent à ramasser en fait 27 millions de tonnes de maïs et de soya. Ce qui est vraiment moindre comparé à ce qu'ils font habituellement, là, parce que selon les données, là, les agriculteurs, en fait, le pays au complet aurait perdu 14 milliards de dollars à date à cause de cette sécheresse-là, mm-hmm. en récolte qui ont juste...
Pas eu lieu.
Pas eu lieu, exactement, parce que, je veux dire, les précipitations sont pas là. Donc, écoute, ça aide vraiment pas au taux d'inflation, parce que là, tu te dis, tes exportations sont...
C'est une économie beaucoup basée sur l'agriculture.
Oui, c'est ça. C'est une économie beaucoup basée sur l'agriculture. Alors, tu sais, dans un temps que les changements climatiques se font ressentir à un tout autre niveau qu'on pouvait le voir, tu sais, il y a 40-50 ans, bien là, tu sais, c'est... Écoute, ça démontre qu'il faut agir par rapport à ça parce que sinon, bien, écoute, l'Argentine, son économie va devoir changer d'orientation. Puis, mm-hmm. écoute, l'agriculture, ça, on aimerait ça que ça soit une forme, tu sais, qui puisse subvenir à travers le temps, mais avec les changements climatiques comme ça, ben écoute, mm-hmm. c'est pas quelque chose de concret en fait.
Donc là, dans le fond, le deuxième tour n'a pas encore eu lieu.
Exactement.
Mais on se retrouve avec deux options. Les électeurs argentins se retrouvent avec deux options. Soit une espèce de centre qui est plutôt une continuation de la politique actuelle.
Comme je mentionnais, là, Sergio Massa, qui est le ministre actuel de l'économie, essaye vraiment de s'éloigner de son président actuel. Là, donc, on ne l'a pas vu pendant la campagne électorale ou rien. Mais c'est une continuation en anglais, on dit ça « libertarian », puis c'est comme une continuation, en fait, de cette pensée-là qui est là depuis une vingtaine d'années, en fait, parce que c'est toujours les deux mêmes idéologies qui s'opposent. Donc là, la population en Argentine veut vraiment se dissocier de ça. Mais tu te dis, d'un autre côté, on a un anarcho-capitaliste. Fait, t'sais, je veux dire, c'est comme... Pour les Argentins, ça revient quasiment à se dire ben, lequel des deux est le moins pire. T'sais, parce mm-hmm. que y en a un qui parle de juste complètement t'sais, détruire les fondations de l'État. Puis il parle aussi de se retirer du Mercosur, tu sais, qui est l'entente, tu sais, en Amérique du Sud, l'entente de commerce, tu sais, qui est entre le Brésil, le Paraguay, l'Argentine, le Venezuela.
Comme une sorte d'ALENA.
Oui, exactement. Puis là, lui, il parle de se retirer de ça. En plus que là, le Mercosur, en fait, c'est Lula qui est en train d'établir une certaine communication avec Emmanuel Macron puis l'Union européenne pour créer un nouvel accord, en fait. Puis là, le fait que les élections que les élections vont influencer cette décision-là, ben écoute, ça va provoquer des tensions certainement entre les relations entre le Brésil surtout puis l'Argentine, parce que ces deux partenaires économiques qui sont super importants l'un pour l'autre, puis quand t'entends ça, ben t'es comme OK, la situation va vraiment pas bien. Là.
Mais c'est ça, les Argentins sont tellement dans la grosse marde.
Ouais, on peut le dire comme ça, ouais.
Il y a une partie d'entre eux qui est un peu en train de se dire. C'est pour ça que Javier Milei est passé au second tour. Ils se disent, ben, rendu là, j'ai plus rien à perdre. Autant essayer quelque chose de radicalement différent, vu que ouais. c'est ça, ça fait quand même longtemps. Là, effectivement, la crise économique a atteint un niveau assez grave, mais ça fait longtemps que l'Argentine, ça va pas bien. Là.
Oui, ça fait longtemps, ça, c'est sûr et certain, on va pas le nier. Là, juste dans les 5 dernières années, là, je pense que le peso argentin a chuté des centaines de pourcents. Donc, c'est... Écoute, je pense pas que ça peut être plus... En tout cas, bref, je cherche les mots pour expliquer à quel point ça n'a pas d'allure. Tu sais, qu'une monnaie d'un pays comme ça perde autant sa valeur. Mais écoute, d'ici de nos chaises du studio de radio, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour ça.
En conclusion, est-ce qu'il y a d'autres choses?
Oui, ben justement. Pour conclure, là, le deuxième tour des élections en Argentine va se tenir le 19 novembre. Puis la candidate que j'ai mentionnée tantôt, qui était Patricia Bullrich, a annoncé qu'elle allait supporter Javier Milei.
Oh.
Donc là, je ne sais pas si on peut s'attendre à une certaine coalition en fait entre les deux partis, mais juste le fait qu'elle se positionne à l'extrême droite avec Javier Milei, ben là, ça va vraiment venir changer l'échiquier en fait, parce que là, il y avait juste 6% qui séparait les intentions de vote entre les deux. Mm-hmm. Donc là, ça va être une course qui va être vraiment intéressante à suivre dans les prochaines semaines. Mm-hmm. Puis on espère que l'Argentine va pouvoir un jour sortir de cette crise économique qui n'a pas l'air d'être finie pour l'instant.
Bon ben, très intéressant. Maintenant, on va aller en pause. Donc, à toutes. De retour en ondes. Alors, désormais, pour le petit segment qu'il nous reste d'une dizaine de minutes, je vais vous discuter, c'est ça, d'un événement où je suis allé qui s'appelait le Forum Foi et Espace Public, organisé par la Table interreligieuse de concertation du Québec. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une forme de proto-lobby religieux au Québec. Donc, c'est vraiment une coalition entre différents mouvements religieux, différentes religions. Là-dedans, on a les Juifs, on a les musulmans, on a les chrétiens anglicans, les chrétiens évangéliques, les chrétiens catholiques qui s'organisent, qui se réunissent pour discuter de la place de la religion et du fait qu'elle doit être défendue, puisque la religion n'a pas nécessairement toujours bonne presse au Québec. On le sait très bien, on est dans une société qui valorise sa laïcité à fond la caisse. Donc, d'où ça vient, ça, la Table interreligieuse de concertation du Québec? En fait, ça a été créé durant la pandémie, puisque à ce moment-là, les groupes religieux n'étaient pas en mesure d'avoir leur lieu de culte ouvert et de pouvoir donner leurs services religieux à la population. Et ce qui était vraiment le plus fondamental, selon eux, ce qui fait qu'ils se sont vraiment regroupés, c'était pour mettre pression sur le gouvernement, afin que les gens qui étaient en fin de vie, qui souffraient dans les CHSLD ou qui pouvaient souffrir dans les maisons de retraite, qui étaient sur le bord de mourir, puissent avoir les derniers services avant leur décès, puisque c'est quelque chose qui est important pour beaucoup de gens qui sont religieux. Et c'est quand même une partie substantielle de la population qui l'est au Québec. Donc c'est ça. Ils étaient réunis pour discuter de la pertinence sociale de la religion, lutter contre les perceptions négatives qu'on peut avoir et essayer de mettre de l'avant un dialogue apaisé qui puisse avoir lieu avec la société civile. Donc, ça a été mis dans un contexte, c'est ça, comme je l'ai dit, où la laïcité est très importante au Québec, au moment où, d'ailleurs, on vient d'interdire la prière dans les écoles, et où 69% de la population du Québec, selon un sondage, pense que réduire la place de la religion dans l'espace public, c'est une marque positive, c'est une marque de progrès. Et aussi, parfois, la perception qu'on peut avoir de la religion au Québec, c'est généralement dans son aspect plus patrimonial, quand il est question de la sauvegarde des églises et leur valorisation. Alors que pourtant, c'est encore, malgré que ça bat de l'aile au Québec, la religion, c'est quand même quelque chose qui est encore vivant. Il y a encore des fidèles. Et comment est-ce que ces gens-là doivent être représentés? Comment leurs intérêts doivent être défendus dans un contexte où, parfois, c'est ça la... Il y a comme un certain tabou par rapport à ces questions-là. Est-ce qu'il y a manière à coexister avec une société laïque, respecter la volonté majoritaire des Québécois, par exemple, en faveur de la loi 21, tout en étant capable de faire reconnaître certains intérêts qui iraient dans l'intérêt général. Mm-hmm. Puisque c'est ça, selon eux, la religion, la foi, ça va dans l'intérêt général, son existence, ça peut être positif, puisque ça peut donner du sens à plusieurs personnes qui en ont besoin. Ça permet aussi de fournir une communauté alors qu'on vit une crise de solitude. Ça permet de ne pas être seul, c'est ça, face à son destin. Et selon eux, on aurait vraiment à faire un exercice de vérité et réconciliation avec la religion. Bon, là, je dois dire quand même que dans les intervenants qu'il y a eu du milieu religieux, il revenait souvent à une position un peu victimaire, de dire que l'État québécois ne veut pas de nous, tout ça, on est maltraité, on est mis de côté. Mais c'était intéressant parce qu'il y avait, oui, il y avait des intervenants du milieu religieux, mais il y avait aussi des intervenants, des universitaires qui ont fait des interventions intéressantes pour venir nuancer les choses et dire que ben, parfois, ça se peut que ce soit justifié. Donc, on va en parler, mais que quand même, il y a de l'espoir. Donc, d'abord, on a eu Bokra Manai, qui vous dit peut-être quelque chose. En fait, c'est la commissaire à la lutte au racisme à la Ville de Montréal. Sa nomination, il y a quelques années, avait fait controverse, puisque c'est vraiment quelqu'un qui est dans la branche plus intersectionnelle des choses, qui met de l'avant les programmes d'équité, diversité, inclusion dans les arrondissements à Montréal. Et elle s'exprimait dans un jargon décolonialisme, antiracisme, antidiscriminatoire, tout ça, tous ces termes-là qui sont associés à « oh, woke ». Mais elle venait dire des choses pertinentes à travers tout ça quand même, notamment que les institutions québécoises peuvent être créatives en ce qui a trait à la religion, faire parfois des accommodements raisonnables, mais elle est beaucoup basée dans une perspective montréalaise où la religion est partout et toutes sortes de religions sont là. Et a dit que malgré tout, pour communiquer cette réalité-là, qui est forte notamment à Montréal, il faut des traducteurs. Donc ça veut dire des intermédiaires, des gens qui créent de l'interconnexion entre le milieu religieux et le milieu laïque. Par exemple, ça peut être la fonction publique, comme ça peut être les citoyens ordinaires, pour qu'on n'évolue pas en silo, comme c'est souvent le cas en ce moment, puis qu'on soit capable de se comprendre puis d'exercer un vivre ensemble. Donc, c'était somme toute quand même intéressant. Ensuite, on a eu Frédéric Dejean, qui est un professeur en études urbaines et qui, lui, parlait de la notion de dialogue apaisé qui a été mis de l'avant et de dire que il ne s'agit pas d'avoir un consensus là, lorsqu'on fait des interconnexions entre le milieu religieux et le milieu laïque au Québec. Il s'agit simplement d'échanger des perspectives. Et il dit que, effectivement, les groupes religieux peuvent avoir une fonction sociale importante. Il donne l'exemple du centre d'accueil des immigrants qui a une origine religieuse. Plusieurs organismes qu'on a, charitables ou communautaires, ont souvent une origine religieuse, notamment catholique, puisque c'est ça, le Québec a été fondé là-dessus tout de même. Le Québec, je ne parle pas le Québec moderne de la Révolution tranquille, mais le Québec, puisque on existait quand même avant 1960. Mm-hmm. Et il dit que les groupes religieux peuvent jouer un rôle de sas d'intégration, donc un intermédiaire dans l'intégration des nouveaux arrivants, puisqu'il vient créer un espace de communauté, puis d'intermédiaire avec la société d'accueil. Par contre, il dit qu'il faut reconnaître que les groupes religieux, s'ils ne jouent pas bien leur rôle puis qu'ils sont trop dans un silo, ils peuvent amener des risques de communautarisme et de séparatisme qui créent une sorte de réaction hostile de la part du reste de la population puis qui fait que le fossé s'accentue. Et il cite en exemple ce qui s'est passé au Cégep Maisonneuve en 2017 où on avait créé un espace, un lieu de prière dans le Cégep pour les gens qui avaient besoin de prier. Sauf qu'en fait, ça avait dégénéré, c'était devenu un endroit où il y avait eu de la radicalisation. Et donc, c'est ça, il mettait de l'avant le fait qu'il faut que les gens se parlent et qu'on puisse avoir une éducation ou une sensibilisation par rapport aux faits religieux pour éviter qu'on fasse juste laisser faire tout le monde de son bord sans se comprendre, parce que c'est comme ça qu'on crée des problèmes. Ensuite, on a eu le rabbin Silberstein, qui lui est un aumônier dans les prisons depuis 1978 et qui parlait du rôle que peut jouer la religion dans la réinsertion sociale des détenus ou des ex-détenus et que parfois, en fait, c'est ça peut vraiment faire voir des perspectives à des détenus qui n'ont jamais eu de bons modèles moraux dans leur vie et qui, à cause de ça, se sont en allés vers le monde du crime. Et il a témoigné plusieurs situations où ça avait pu changer des situations. Donc, en dernier lieu, on a eu Solange Lefebvre, qui est aussi une universitaire, qui elle a dit plusieurs choses aussi, qui a dit que la religion, oui, ça présente des problèmes, mais qu'en soi, la religion, ça n'a pas à être un problème. Elle a aussi dit que le discours public dominant au Québec, c'est pas la même chose que l'opinion profonde. C'est-à-dire que souvent, effectivement, dans la notion d'espace public, on veut rien entendre parler par rapport à la religion, mais qu'au niveau individuel, les gens, selon les sondages, considèrent que la religiosité, donc le fait d'être spirituel, de croire en certaines choses religieuses, c'est important chez 60% d'entre eux. Donc il y a des grosses questions qu'on peut se poser. Donc, il y a une ouverture qui est possible du fait où les individus, à un niveau intime, sont prêts à accepter la religion. Bien, pas tout le monde, évidemment, mais quand même une majorité de Québécois. Sinon, elle a dit que quand même, c'est quand même plutôt justifié que la religion soit mal vue au Québec, que ce soit par l'héritage catholique qui est entaché de toutes sortes de manières, par le côté parfois moralisateur très paternaliste des institutions religieuses, et aussi par le fait que c'est rarement, du moins dans les perceptions populaires et aussi dans les groupes dominants de la religion, c'est rare que le féminisme est très présent. Et donc, elle a dit, religion et société s'adressent constamment à un procès réciproque, on est toujours en train de se critiquer l'un et l'autre, puis elle a dit que c'est normal en soi, puis que ça va continuer comme ça, sauf qu'au lieu de juste se critiquer chacun de notre côté, ben, il faut qu'on soit capable de se parler puis de se dire les vraies choses sincèrement et rationnellement. Donc, c'est ça. Sinon, elle parlait que la radicalisation au Canada, malgré qu'il y a un côté islamique qui est présent, c'est pas ça qui est dominant dans la radicalisation. Elle cite les radicalisations par rapport aux Sikhs versus les hindous. On a parlé il n'y a pas longtemps avec le professeur Granger. L'extrême droite, l'antisémitisme et l'antiféminisme sont des phénomènes radicalisés plus important que l'islamisme radical. Et donc, en dernier lieu, elle a dit qu'il faut faire attention aux impacts des conflits internationaux, notamment le conflit israélo-palestinien, puisque ça a commencé au moment où a eu lieu ce forum-là. Il faut éviter les clashs entre les religions pour un conflit qui reste qu'au Québec, malgré qu'il y a des diasporas. On n'est pas en Israël ou en Palestine ici. Mm-hmm. Et il faut donc éviter une espèce de clash civilisationnel sur notre terre ici, alors que ce n'est pas quelque chose qui nous touche. Elle dit aussi que c'est ça, le lobby religieux, le lobby, ici pas pris péjorativement, mais le fait de défendre les groupes d'intérêt religieux au Québec, c'est très peu développé en ce moment si on se compare à d'autres endroits dans le monde, notamment à l'Angleterre ou le Canada anglais ou les États-Unis. Puis elle dit qu'il y a une manière, il y a une porte éventuellement à ce qu'on puisse voir un dialogue s'ouvrir. Il y a d'autres gens aussi qui sont intervenus, notamment pour dire qu'il existe un phénomène... tantôt, j'ai cité Frédéric Desjean, un autre truc qu'il a dit, c'est il a cité le concept de post-sécularité qui est amené par Jürgen Habermas, un philosophe européen, qui lui dit en fait qu'avec le néolibéralisme, donc le fait que les États ont tendance à vouloir d'évoluer les fonctions d'État-providence et de filet social, les groupes religieux peuvent être vus comme une alternative et une possibilité intéressante puisque eux, ils offrent des services charitables bien souvent et communautaires. Il dit que si les institutions religieuses se voient prêtes à ne pas seulement offrir ça aux gens de leur congrégation, mais à tout le monde, ce qu'ils connent, effectivement, comme l'aumônier le juif que j'ai cité, lui... Il allait voir tout le monde, là, pas juste les Juifs, ben, il peut avoir du potentiel à ce que les groupes religieux jouent un rôle positif et harmonisé avec une société québécoise qui est tout de même laïque et qui est en bonne voie de le rester. Donc, je ne sais pas si vous aviez des observations à faire par rapport à tout ça, des commentaires.
Mais moi, je trouve ça vraiment pertinent que tu sois allé là-bas et que tu sois venu nous en parler aujourd'hui parce que La religion, on oublie souvent que c'est un pan identitaire chez l'humain, puis on a tendance à déshumaniser la chose en parlant comme si c'était quelque chose d'abstrait puis d'au-dessus des gens, mais ça compose beaucoup de personnes. Puis je trouve ça important de pas essayer de retirer ça aux gens. C'est un peu comme, tu sais, l'aspect de la langue dans notre connaissance identitaire. Donc, je pense que c'est ça. C'est vraiment cool qu'il y ait des événements comme ça dans lesquels il y ait des personnes de divers horizons qui s'expriment puis qui apportent leur point de vue. Parce que la religion disparaîtra pas. Puis justement, c'est à l'origine de plusieurs enjeux conflictuels autour de nous, que ce soit de près ou de loin, comme on peut penser au conflit qu'il y a au Moyen-Orient, pas juste en Israël puis en Palestine. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis je trouve ça intéressant qu'on en discute encore, puis qu'il y a une ouverture de la part d'un parti et d'un autre à comment est-ce qu'on conçoit la religion aujourd'hui? C'est quoi l'apport que ça a dans la société? Puis après ça, c'est aussi pertinent justement de parler de l'héritage que ça a laissé dans notre société québécoise à nous. Puis d'évaluer c'est quoi les disparités dans les réalités, c'est quoi les disparités entre... Pas les disparités, mais les différences, mettons, entre Montréal, qui est un centre plus multiculturel, versus les régions, justement.
Ouais. Donc voilà, en fait, on a dépassé l'heure de fin. On faisait une heure aujourd'hui seulement. Mais écoutez, on va finir ça en beauté avec un petit jingle. Puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission. Donc, salut tout le monde!
À plus!
À plus!